Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 7 juin 2023, en direct de Washington, Idrissa Sebudia. Pour commencer, les titres. Le Sénégal ferme ses consulats à l'étranger suite à des attaques consécutives à la condamnation de l'opposant Sonko à 2 ans de prison. La France veut rester un partenaire pertinent en Afrique malgré les discours anti-français, assure la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna. L'ONG Human Rights Watch appelle l'armée nigériane à rendre justice aux victimes civiles de frappes de drones dans le centre du Nigeria. Au Burundi, suspension des activités du principal parti d'opposition, le CNL, de l'ex-chef rebelle Agathon Rwasa. Les combats se poursuivent au Soudan, des témoins craignent un siège à Khartoum. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken en Arabie Saoudite, les droits humains évoqués au premier jour de sa visite. Ici aux États-Unis, l'ex-gouverneur républicain du New Jersey, Chris Christie, annonce à son tour être candidat à la Maison-Blanche. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le gouvernement sénégalais a annoncé hier fermer provisoirement ses consulats généraux à l'étranger à la suite d'attaques contre un certain nombre d'entre eux sur fond de vives tensions sur le territoire national. Précision de John Linden.
Cette mesure conservatoire fait suite à la série d'agressions récemment perpétrées contre les missions diplomatiques et consulaires du Sénégal à l'étranger, notamment à Paris, Bordeaux, Milan et New York, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Il fait état de sérieux dommages, notamment à Milan, où les machines de production des passeports et cartes d'identité ont été, selon lui, détruites. Les consulats rouvriront quand les conditions matérielles et sécuritaires le permettront, dit-il. Le Sénégal a connu entre le 1er et le 3 juin ses pires troubles depuis des années, après la condamnation à 2 ans de prison ferme de l'opposant Ousmane Sonko dans une affaire de mœurs. Une condamnation qui a suscité des heurts ayant fait au moins 16 morts et des dégâts considérables et qui pour l'heure rend Ousmane Sonko inéligible pour la présidentielle de 2024. En 2020, l'OCDE estimait à 700 000 le nombre d'émigrés sénégalais dans le monde.
La France entend rester un partenaire pertinent en Afrique malgré les discours anti-français. C'est ce qu'a déclaré hier soir la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, en présentant devant le Sénat la politique étrangère de son pays en Afrique, Mohamedou Oumfa.
La jeunesse africaine a lancé un défi à la France, celui de nous renouveler, de changer notre manière de faire, a noté la chef de la diplomatie française, soulignant que Paris avait entendu le message des jeunes. Elle a rappelé la volonté de la France de bâtir une relation nouvelle, équilibrée, réciproque avec les pays d'Afrique. C'est ainsi que la France restera un partenaire proche, pertinent dans ce continent, appelé à occuper une position tellement centrale dans les équilibres du monde de demain, a-t-elle ajouté. La ministre n'a pas éludé les vents contraires, et notamment la diffusion des discours anti-français dans certains pays d'Afrique francophone. Ces discours sont pour partie liés à l'héritage de l'histoire, pour partie aux frustrations de la jeunesse, pour partie aussi à des entreprises hostiles, venant notamment de la Russie, a-t-elle estimé. De son côté, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a relevé qu'au fil du temps, les pays africains avaient décidé de diversifier leurs partenariats et de les mettre en concurrence, y compris sur le plan de la défense. Cela porte le défi d'être plus attractif vis-à-vis de partenaires anciens avec lesquels nous sommes dans des relations affectives, a-t-il expliqué. Il a par ailleurs plaidé pour une approche plus transparente des missions des bases militaires françaises et dit sa volonté d'accueillir beaucoup plus d'élèves, officiers ou sous-officiers en France.
L'ONG Human Rights Watch a demandé hier à l'armée nigériane de reconnaître sa responsabilité dans le bombardement d'un campement d'éleveurs dans le centre du Nigeria le 24 janvier dernier, bombardement qui a coûté la vie à 39 civils et aussi d'indemniser les victimes. Le lendemain du drame, le gouverneur de l'État de Nassarawa avait confirmé une frappe menée par un drone ayant tué une quarantaine de personnes. Sans reconnaître explicitement de faute et dans une réponse adressée à Human Rights Watch le 17 mai et jointe au rapport, l'armée a finalement reconnu avoir mené une frappe aérienne en réponse à ce qu'elle a appelé des activités terroristes présumées sur la base de renseignements crédibles. À l'instar de l'ONG, Washington a aussi appelé mardi à une enquête approfondie et transparente sur la mort de ces civils. Nigeria toujours, des pêcheurs et un responsable d'une milice soutenue par le gouvernement ont dit hier que des djihadistes de Boko Haram ont attaqué vendredi 3 villages sur les rives du lac Tchad et enlevé 30 éleveurs. Ils ont demandé une rançon de 20 millions de naira, soit environ 40 000 euros en échange de leur libération. Au Burundi, le ministère de l'Intérieur a suspendu les activités du principal parti d'opposition, le Conseil national pour la liberté de l'ex-rebelle Agathon Rwasa. Les autorités évoquent des irrégularités lors de ces deux derniers congrès. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
La décision de suspendre les activités du Conseil national pour la liberté fait suite à deux congrès, l'un ordinaire le 12 mars et l'autre extraordinaire le 30 avril. Il visait à doter le parti de nouveaux statuts et règlements intérieurs conformes au nouveau découpage administratif du pays qui sera effectif en 2025. Ces réunions ont vu 8 cadres opposés au président du CNL, Agathon Rwasa, évincés du bureau politique. Ces derniers ont alors porté plainte auprès du ministre de l'Intérieur, Martin Niteretse. Dans un courrier adressé à Agathon Rwasa, daté du 2 juin, le ministre évoque des irrégularités par rapport au statut du Conseil national pour la liberté, qui prévoit notamment la tenue d'une réunion du bureau politique avant tout congrès. Toutes les activités organisées par les organes irrégulièrement mis en place sont suspendues à travers le pays, conclut-il. Il précise que seules les réunions organisées dans le but de dénouer les tensions au sein du parti sont autorisées. La direction du Conseil national pour la liberté dénonce, selon elle, une violation grave de la Constitution et une tentative de déstabiliser et d'affaiblir le parti.
Tirs d'artillerie, combats de rue et explosions ont fait trembler mardi Khartoum, la capitale du Soudan, où l'armée et les paramilitaires continuent à se disputer le pouvoir, alors que la crise humanitaire s'aggrave en plein cœur de la capitale sur l'île de Touti, à la confluence du Nil Bleu et du Nil Blanc. Les paramilitaires bloquent l'unique pont et empêchent les habitants d'utiliser les bateaux reliant l'île au reste de Khartoum, a affirmé mardi un groupe d'avocats pro-démocratie. Les paramilitaires tire sur quiconque s'approche de la rive, selon ses avocats. C'est un siège complet et si ça continue, la nourriture va manquer dans les magasins, s'inquiète un habitant de l'île, contacté par téléphone.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est arrivé hier mardi en Arabie Saoudite. Son objectif, renforcer les relations entre Washington et Riyad, discuter du conflit au Soudan et de la normalisation entre le Royaume saoudien et Israël. Erit Manirakidza.
Cette visite de 3 jours survient sur fond de rapprochement historique entre l'Arabie Saoudite, deux ennemis des États-Unis, l'Iran et la Syrie, amorçant un changement de la donne géopolitique dans la région. M. Blinken devrait rencontrer le prince héritier du royaume, Mohamed Ben Salman, selon un responsable américain s'exprimant sous couvert de l'anonymat. Des militants des droits de l'homme ont appelé le chef de la diplomatie américaine à soulever la question de violation des droits humains. Après Jeddah, M. Blinken ira demain mercredi à Riyad, où il participera à une réunion des ministres des Affaires étrangères du Conseil de coopération du Golfe. Jeudi, il coprésidera avec son homologue saoudien une réunion de la coalition des pays luttant contre le groupe djihadiste État islamique. Des efforts de paix au Yémen devraient également figurer au menu des discussions. Le déplacement de M. Blinken intervient alors que les États-Unis et l'Arabie saoudite, médiateurs dans le conflit au Soudan, ne parviennent pas à faire respecter plusieurs trêves entre les généraux belligérants.
Ajoutons que M. Blinken a eu une conversation ouverte et sincère dans la nuit de mardi à mercredi à Djeddah avec le prince héritier Mohammed ben Salman au premier jour de sa visite en Arabie saoudite, a dit un responsable américain sous le couvert de l'anonymat. La Minute Éco, John Linden.
Réussir malgré les crises de 300 à 3000, comment accélérer l'émergence de la prochaine génération de champions africains? C'est autour de ces thèmes centraux que se sont articulés les échanges de l'Africa CEO Forum tenu à Abidjan en Côte d'Ivoire. Cet important rendez-vous annuel est consacré au secteur privé africain et réunissait cette année pas moins de 1800 chefs d'entreprise et décideurs publics africains et du monde. Le Fonds fiduciaire pour l'égalité des sexes de la Banque africaine de développement accorde un don de 950 000 $ au programme de promotion des liens d'affaires pour les petites et moyennes entreprises d'Afrique au Burkina Faso, au Tchad, au Mali, à Mauritanie et au Niger. Selon l'agence Ecofin, ce don qui vient compléter un don antérieur de 3,9 millions de dollars de la facilité d'appui à la transition de la banque devrait permettre de soutenir 1400 entreprises dirigées par des femmes et contribuer à la résilience économique et à la cohésion sociale de la région du Sahel. La Banque mondiale vient d'accorder un financement supplémentaire de 150 millions de dollars au Ghana dans le but d'élargir et d'améliorer les filets de sécurité sociaux et de donner accès aux pauvres à des possibilités de génération de revenus productifs. Selon Financial Afrique, qui cite l'institution, cette enveloppe devrait également apporter un soutien au plus grand programme d'assistance sociale du Ghana, le programme d'alimentation scolaire qui touche 3,6 millions d'enfants dans les jardins d'enfants et les écoles primaires.
Merci John. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Aurore a publié la liste des joueurs béninois convoqués pour affronter le Sénégal le 17 juin prochain.
Oui, le sélectionneur des Guépards a retenu 25 joueurs avec peu de surprises pour cet important rendez-vous. C'est dans le cadre de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2024. Nous retrouvons notre correspondant à Boïcon, Élisée Mpatine.
Le technicien franco-allemand a fait confiance aux habitués comme Stéphane Sesseillon, Khaled Adenon, Jodel Dossou, Satuné Alagbe ou encore Olivier Verdon. Par contre, David Kiki et Mervin Doremus ne sont pas de la partie pour raison de blessure, tout comme Cécile Dalmeida et Jordan Adeoti, choix personnel du sélectionneur. En revanche, on note le retour de Marcelin Coupeau et de Rodrigue Cossi. Pour le reste, quatre nouveaux ont été appelés pour la première fois. Brandon Agounon, Andrea Routonji, Prince Ricardo Dossou et Alid Djankwata. On note aussi que l'ancien sélectionneur du Nigeria a toujours laissé de la place aux joueurs locaux, en témoignent les cinq qu'il a encore convoqués pour cette difficile explication contre le Sénégal. Serge Obasa, Rachid Moumini, Rabiou Sakamao, Hassan Imouran et Ricardo Dossou. L'objectif d'après Gernot Rohr est de prendre les trois points face au Lion de la Teranga avant la dernière journée qui se disputera au Mozambique. Boïcon, Élisée Mpati, VOA Afrique.
Transfert, Karim Benzema a signé avec le club saoudien d'Al-Ittihad.
Le ballon d'or français en partance du Real Madrid s'est engagé pour 3 ans avec le club saoudien d'Al-Ittihad basé à Jeddah. Karim Benzema a joué son dernier match avec le Real dimanche après 14 saisons passées au sein du club madrilène. À 35 ans, Benzema vient ajouter son nom à une riche liste de poids lourds venus monnayer leurs services pour une dernière pige avant de ranger définitivement les crampons. D'autres grands noms sont toujours dans le viseur de l'Arabie saoudite, comme Lionel Messi.
Marco Asensio, lui, est proche de signer au PSG.
L'attaquant espagnol, libre en provenance du Real Madrid, a passé sa visite médicale à Paris et devrait signer au Paris Saint-Germain. À 27 ans, Marco Asensio devrait donc arriver à Paris la saison prochaine
après avoir passé quasiment 10 ans au Real Madrid. En fin de contrat fin juin, le joueur a annoncé samedi qu'il quitte le Real. Il a un palmarès impressionnant avec la Maison Blanche, 17 titres, dont 3 Ligues des Champions, le tout pour 285 matchs et 61 buts. Avec cette première grosse recrue, le PSG, après avoir acté les départs de la star argentine Lionel Messi et Sergio Ramos ce week-end, commence son offensive estivale.
Merci, Yacou.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Dans une tribune intitulée « Cette vérité qu'on ne saurait cacher », trois intellectuels sénégalais dénoncent les actions répressives du gouvernement, la détention d'opposants et la corruption de l'élite politique. Ils attribuent la récente vague de violence au Sénégal à la dérive autoritaire du président Macky Sall et aux soupçons selon lesquels le chef de l'État sénégalais envisagerait de briguer un troisième mandat en 2024. Pour comprendre cette démarche et ses accusations, Eric Manirakidza a joint à Dakar notre ancien correspondant Alassane Samba Diop, directeur de Immédiat.
Mais je pense que les intellectuels sénégalais sont dans le rôle. Le rôle de l'intellectuel, c'est quand un pays est en situation, comme on l'est depuis, c'est de sortir, de porter sa voix, de parler au nom du peuple. Je pense que c'est tout à fait naturel que les intellectuels sénégalais sortent, parlent de la situation du pays. Et qu'il n'est pas le premier au Sénégal, hein, depuis Senghor jusqu'à Abidjan, Abdoulaye Wade, les élus de la FIFA. Les intellectuels sénégalais ont toujours pris position et dit ce qu'ils pensent pour la situation du pays quand les choses sont en crise.
Est-ce que c'est un appel qui a eu de l'écho dans l'opinion?
Oui, l'opinion interprète ça aussi de façon aussi diverse, parce que certains disent que ces intellectuels-là, ils ne parlent que dans un sens, c'est-à-dire qu'ils condamnent l'État du Sénégal, ils condamnent le président Macky Sall, mais aussi ils oublient de condamner le président Sonko qui a fait la même sélection. Donc les anciens disent que les intellectuels doivent aussi être équidistants par rapport justement à l'équipe de position. Quand ils sont condamnés, l'État du Sénégal qui est en train de faire un travail pour le secteur qui est condamnable, les intellectuels doivent aussi se prononcer sur les positions qui sont radicales, qui appellent le taux. La liberté qu'ont certains intellectuels de dire ce qu'ils pensent, d'autres aussi un peu de plus en disant autre chose. Je pense que ça, dans un pays démocratique, mais l'important aujourd'hui qui concerne les Sénégalais, c'est que le calme revienne, que la paix revienne, et que les choses de l'Union que le Sénégal retienne sa place dans le comté de marché.
Et le président Macky Sall a-t-il réservé une suite quelconque à cet appel?
Mais pour le moment, il n'y a aucune réaction par rapport au Sénégal. Le président Macky Sall n'a pas réagi. C'est les intellectuels qui sont dans son camp qui ont réagi. En fait, c'est aussi c'est Mike Kam qui a écrit un papier pour répondre à ces intellectuels qui ont écrit, en leur disant aussi, très bien, vous avez fait du bon travail en dénonçant ce qui est fait. Mais vous devez aussi voir de l'autre côté aussi, les responsabilités aussi, sont quelque part partagées.
Au-delà des intellectuels, il y a aussi l'influence des leaders religieux. Est-ce qu'ils ont dit quelque chose?
Les religieux ne disent pas. Ce qu'ils disent, ils ne disent pas très haut. Mais ils sont en train de faire le travail de délégation. Hier, le président Macky a été reçu par le Khalid général de Mérida, qui est le plus grand conseiller au Sénégal. Je pense que les autres Khalid général aussi vont entrer dans la banque. Ils sont en train de parler, de discuter, pour apaiser la tension. Dans la délégation qui a été reçue par le Khalid général de Mérida, il y a un représentant du président Macky Sall, il y a un représentant de Ousmane Sonko, le principal leader de l'opposition. Voilà, je pense qu'ils ont tous été reçus dimanche dernier d'abord par le Khalid, avant que le président soit reçu hier par le général de Mérida. Et je pense qu'il y a des négations qui se font, des discussions qui se font, parce que aussi bien Macky Sall, Ousmane Sonko ont intérêt à avoir un pays en paix. Si Macky Sall gère un pays qui a un trouble, ça ne pourra rien faire. M. Sonko aussi, quand il dit qu'il n'aura pas pouvoir prendre un pays qui a un trouble, il ne pourra rien faire. Donc, au fond, la question de fond, ce sont les Sénégalais et les populations qui sont en train de subir la furie des politiciens.
Joint à Dakar, notre ancien correspondant Alassane Samba Diop, directeur de Immédiat.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum cette semaine. Gros plan sur la situation explosive au Sénégal, où des violences meurtrières ont éclaté récemment après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko dans une affaire de mœurs. Le chef du parti PASTEF, détracteur farouche du chef de l'État Macky Sall, allègue être victime d'un complot politique pour l'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle de 2024. Quelles sont les causes et les conséquences de ces troubles? Sortant de ras-le-bol des Sénégalais, dont de nombreux jeunes, face à la crise économique et sociale, rendez-vous ce jeudi à 19h30.
En Côte d'Ivoire, on a célébré cette semaine la Journée mondiale de l'environnement. Le pays a été désigné par l'ONU pour la célébration officielle. Une occasion pour l'État ivoirien de revenir sur les actions de recyclage, mais également sur l'économie circulaire. Delphine Boïse, notre correspondante à Abidjan, nous en dit plus.
Vu la gravité de la situation, la Côte d'Ivoire veut mettre fin à l'usage des sachets plastiques et prend en 2013 un décret pour faire face à la question des déchets plastiques. Mais il faut aller au-delà avec des actions de sensibilisation. Jean-Luc Assi, ministre ivoirien de l'Environnement et du Développement durable.
La Côte d'Ivoire continuera à mener des actions en renforçant le partenariat public-privé, en accompagnant plusieurs entreprises dans la gestion durable des déchets plastiques, au travers d'une approche d'économie circulaire, de création d'emplois verts, des changements profonds dans le comportement du citoyen et des mises en place d'un cadre juridique renforcé et incitatif.
D'autres solutions au plan mondial et beaucoup plus globales sont proposées par la directrice exécutive du programme des Nations Unies pour l'environnement. Inger Anderson du PNUE estime que la pollution plastique constitue une menace pour les populations.
Le monde produit plus de 400 millions de tonnes de déchets plastiques chaque année. Il faut redéfinir la conception de l'emballage pour réduire les quantités de plastique. Il faut redéfinir la conception du système et des produits pour faciliter la réutilisation et le recyclage.
Une lutte à laquelle s'associent les ONG à travers le recyclage des déchets plastiques, des initiatives qui cadrent avec le thème de la journée, solution à la pollution plastique. Edith Kouassi de l'unité de transformation plastique.
On a les rebuts et les bidons plastiques d'eau qui sont broyés, ensuite bien traités, qui donnent des différentes formes. Et ces différentes formes-là, on les recycle en plaques écologiques et des pavés. On fait le maximum pour réduire le CO2, le taux de carbone éjecté dans l'environnement.
Mouna Lekale de Green Community.
Nous avons des objets d'art, ces objets qui ont été faits avec du capsule. On a aussi des tableaux, on a aussi des vêtements qui sont faits avec du capsule et du recyclage avec des sacs, avec les messages écologiques. Notre objectif, c'est de faire d'Abidjan une ville de zéro déchet plastique.
Choisi par les Nations Unies comme pays hôte pour porter le flambeau de la lutte contre la pollution plastique pour ce cinquantenaire, la Côte d'Ivoire se dit prête pour les actions de sensibilisation. Delphine Bouise, Abidjan, VOA, Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Au Niger, après des heures de route dans le désert, elles surgissent comme des mirages au milieu d'une palmeraie enchevêtrée, forteresse de sel et d'argile dressée sur des éperons rocheux assiégés par les sables, derrière les murailles crénelées. Sommeil des ruelles tortueuses, des tours de garde, des galeries souterraines, des passerelles, des greniers, des puits, témoignage du génie des bâtisseurs oubliés. Reportage de Souleymane Agnara, récit de Rosine Mounezero.
Des générations de voyageurs ont rêvé devant les ruines des forts du Jado, situés à plus de 1300 km de Niamey, au nord-est du Niger, sans jamais résoudre leurs énigmes, qui a bâti ses kassars, village fortifié bâti en pierre salière dont les vestiges hantent les oasis du Kawar, une région désertique et isolée au nord-est du Niger. À quelle époque et pourquoi ont-ils été abandonnés? Aucune fouille, aucune datation scientifique n'a jamais été entreprise dans la zone pour répondre définitivement à ces questions. Chercheurs et touristes ont déserté depuis 20 ans cette région troublée qui jouxte les frontières de la Libye et du Tchad à cause de l'insécurité. Le Kawar, jadis un important nœud des routes caravanières, est aujourd'hui un couloir des trafics d'armes et de drogues transsahariens.
Ce qui manque vraiment aujourd'hui, c'est le tourisme, vraiment. Et du coup, la commune ne profite pas de cet endroit, vu vraiment l'insécurité qui est là.
L'autorité traditionnelle de Fassi, Kiari Sidi Tchagam, estime l'âge de sa forteresse à au moins 200 ans. Nombre de Kassars dans les autres pays sahariens furent effectivement bâtis entre le 17e et le 18e siècle.
Ce fort-là a été construit, je ne saurais vous dire avec exactitude quand même la date, mais on peut estimer ça au-delà de 200 ans quand même. Ça avait bien dans le temps avec la razzia. Donc c'était des Touaregs, tantôt bien des Arabes, qui viennent faire la razzia au niveau du village. Donc les gens n'avaient pas autre solution, n'avaient pas d'issue.
Le maire préfère ne pas s'avancer sur l'histoire du patrimoine communal. Il s'en réfère à de vieilles photocopies enfouies dans le placard de son bureau, celle d'un ouvrage d'Albert le Rouvreur, un militaire français qui fut en poste à Shirfa à l'époque coloniale et tenta sans succès d'élucider le mystère.
Il y avait un arabe qui était venu de la Turquie, selon les informations que nous avions reçues. Celui qui a donné l'ingénieuse idée aux gens de construire ce fort-là. Donc le fort a été construit et le fort est là. Vous le voyez jusqu'à présent, c'est solide, ça tient bien. Ça c'est des grenis, tout ce que vous voyez. Dans le temps, il y avait un puits aussi ici à côté, il y avait un puits là.
Les Kanouri auraient ensuite érigé leurs propres fortifications à Dirkou, Binma et Fachi, les principales oasis de la région. Une fierté pour leurs descendants, inquiets pour la sauvegarde de ces fragiles architectures de sel menacées par les pluies.
Vous savez bien que les gens ont toujours passé, ils ont toujours dit qu'il est vraiment impératif, il est nécessaire d'écrire ça au patrimoine de l'UNESCO. Donc, c'est pas. Et la population, vraiment, on se retrouve à travers ce fort-là. On se retrouve à travers ça. Ça fait partie de notre culture et ça fait partie quand même de toute notre histoire.
Depuis 2006, les fortins du Jado végètent sur une liste indicative en vue d'une éventuelle demande d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Abandonnés dans le silence du désert, les citadelles défendent encore leurs héritiers contre l'oubli.
Rosine Mounezero. Quelques 25 millions de Nigérians vivent avec diverses formes de handicap. Leur pays a promulgué en 2019 une loi visant à promouvoir leur inclusion. Mais selon des organisations de défense des droits humains, de nombreuses personnes en situation de handicap se sentent toujours marginalisées. Pour aider à résoudre le problème, un journal nigérian a créé un moyen d'atteindre davantage de Nigérians malvoyants. D'Abuja, un reportage de Timothy Obiezu. Le récit est de Jacques Aristide.
En route pour le travail, comme chaque matin, Eleanora Boyo aime bien utiliser son téléphone portable pour se tenir au courant des dernières actualités en ligne. En tant que malvoyante, elle se heurte à des difficultés.
Je ne peux accéder à certains sites web ou à certaines applications avec mon lecteur d'écran, ce qui rend l'accès aux informations très compliqué.
Les Nigérians en situation de handicap constituent l'une des tranches les plus pauvres de la population, trop souvent marginalisées, disent-ils. En mai, un journal en ligne nigérian, The Cable, a lancé ce qu'il appelle une application d'information inclusive pour les personnes handicapées. Objectif, donner aux malvoyants un accès facile à l'information par le truchement d'une fonction vocale intégrée.
Quand j'ai téléchargé et parcouru l'application, c'était vraiment bien. C'était accessible, présumément mon lecteur d'écran pouvait l'utiliser. De plus, j'ai vu que certaines des impressions étaient très audacieuses, ce qui est accessible aux personnes malvoyantes, mais pas entièrement aveugles.
L'initiative est décrite comme la première application d'actualité adaptée aux personnes handicapées du Nigeria. Le projet est l'un des gagnants du Google News Innovation Challenge en 2022. Kolapo Olapodju est rédacteur en chef du journal.
We fight for persons with disability. Nous nous battons pour les personnes handicapées en tant qu'acteurs des médias. Nous le faisons à travers nos reportages, à travers certains des plaidoyers que nous faisons. Cependant, nous oublions que nous devons réellement leur apporter des solutions. Et nous avons dépassé l'ère des médias traditionnels. Nous sommes à l'ère des médias numériques.
Stephen Idoko de l'Inclusive Friends Association est d'avis qu'il ne faut pas non plus oublier les personnes sourdes et malentendantes. Des ONG réclament que la loi handicap de 2019, acquise après de nombreuses années de plaidoyer et de manifestations, soit véritablement mise en pratique dans la vie de tous les jours